Chapitre 9, où l'on voit Jacques Villard tour à tour craindre et agir. Trois jours après, le comte Zermatt n'avait pas encore reçu la moindre nouvelle au sujet de sa femme. La gendarmerie de Fontainebleau, les gardes de la forêt auxquels s'était joint toute une escouade de détectives mobilisés par Willy, s'étaient livrés à plusieurs battues qui n'avaient donné aucun résultat. La Sûreté générale, saisie de l'affaire, avait envoyé dans toutes les directions le signalement de la disparue. Mais jusqu'alors, cette formalité avait été complètement stérile. Jacques Villard, qui, sous le couvert du père Ardennais, s'était installé chez son fils, se renfermait dans un mutisme absolu. C'est à peine si, au cours des repas, afin de donner le change au domestique, il adressait à Willy quelques paroles banales. Puis il s'enfermait dans sa chambre, qu'il arpentait à grands pas, pour s'arrêter, s'installer dans un fauteuil, où pendant de longs instants, les paupières fermées pour mieux concentrer sa pensée, il se plongeait dans des réflexions qui ne devaient avoir rien de bien agréable, car son visage crispé, son regard surtout, trahissait l'inquiétude intérieure qui devait par moments se transformer en une véritable angoisse. Willy n'osait l'interroger, l'ex-roi des snobs lui battant froid. Sa première pensée avait été que c'était son fils qui, ne voulant pas que sa femme fût assassinée, l'avait fait filer. Mais Jacques Villard ne s'attarda pas plus que quelques secondes à cette hypothèse. En effet, il se dit que Willy n'avait pas pu donner les instructions nécessaires pour faire évader Gisèle, puisque, depuis qu'il lui avait fait part de ses intentions criminelles, il ne s'était pas quitté une seule minute. Cependant, une arrière-pensée subsistait dans l'esprit du gredin. Il songeait que Willy, ayant deviné son projet, avait peut-être pris ses précautions pour le contrecarrer. Espérant que la police remettrait la main sur la jeune femme, il avait patienté pendant 3 jours. Mais, convaincu désormais que Gisèle devait être enfermée dans un endroit assez sûr pour que le plus malin des détectives fût incapable de la découvrir, il se décida, comme on dit vulgairement, à tirer les vers du nez de son fils. Le même soir, après le dîner, au lieu de remonter directement dans sa chambre, ainsi qu'il le faisait d'habitude, il dit à Willy « Je vais te parler. Où serait-on le mieux pour ne pas être entendu ?»« Dans ma chambre, allons-y. » Zermatt n'était pas tranquille. Il connaissait assez son père pour comprendre que celui-ci allait avoir avec lui une grave explication. Mais, rassemblant tout son courage, il se dit « Bon, à la fin, je commence à en avoir assez, et cette fois, je suis décidé à lui tenir tête. » Après s'être installé, le faux missionnaire dans un fauteuil et Willy sur une simple chaise, le premier attaqua. « Je n'ai qu'une question à te poser, mais j'exige que tu me répondes avec la franchise que j'ai le droit d'exiger de ta part. Qu'as-tu fait de ta femme ?» À ces mots, prononcés d'un ton très calme, mais avec un accent de sourde menace, le donjon des grands bars bondit en répétant « Ce que j'ai fait de ma femme, moi ?»« Oui, toi. Que signifie cette plaisanterie ?»« Je ne plaisante pas, » affirmait sévèrement le bandit, « et je t'engage à me parler sur un autre ton. » « Mais comment pourrais-je garder mon sang-froid lorsque vous me lancez brutalement à la figure que j'ai fait disparaître Gisèle ?» Et, se montant de plus en plus, il continua. « Mais ça vous prenez donc pour un parfait imbécile ?» Toujours avec le même sang-froid, Jacques Villard scandait. « Non, mais les hésitations que tu avais manifestées au Cap Martin lorsque pour la première fois je t'ai déclaré qu'il fallait en finir avec elle. Mais je reconnais que je n'ai pas votre insensibilité. Mais tu n'es, tu ne seras jamais qu'un homme à femme. Reconnaissez que cela n'a pas été inutile à la réalisation de vos projets. Oui, parce que j'étais là pour te diriger et t'empêcher à chaque instant de commettre des sottises qui auraient tout compromis. La preuve, c'est qu'il a suffi que je te laisse as pendant quelques ans la prise sur le coup pour que tu me joues à un tour qui va tout retarder, peut-être tout perdre. Se campant devant son père, le beau Willy attaquait résolument. Alors vous persistez à croire que c'est moi qui ai enlevé, ou plutôt fait enlever ma femme. Avec un accent d'autorité impérieuse, le bandit ripostait. Je suis tellement convaincu que pour la dernière fois, je te somme de me dire ce que tu en as fait. Et moi, pour la dernière fois, je vous affirme que j'ignore absolument ce qu'elle est devenue. Regarde, grondait le faux missionnaire que la pauvre colère gagnait. Bon, ce n'est pas la première fois que vous me menacez, ripostait Willy, qui lui continuait à garder son sang-froid. Mais aujourd'hui, malgré tout le mal que vous pouvez me faire, je ne puis répondre autrement à l'accusation que vous formulez contre moi, qu'en vous disant, c'est pas vrai. Mais allons donc, tu t'es toqué de cette femme. J'ai eu un béguin pour Gisèle, je vous l'avoue. Mais je vous assure qu'il est bien passé. Et puis, si j'avais voulu la soustraire à l'arrêt de mort que vous avez prononcé contre elle, j'aurais pas attendu aussi longtemps. Mais tout ça, ce sont des phrases, et les phrases, ça ne prend jamais avec moi. Vous persistez à me croire coupable. Oui, eh bien, qu'allez-vous faire? Cela me regarde seul. Vous allez me dénoncer à la police, me démasquer, et puis après. Est-ce que vous croyez que je vais attendre ces messieurs? À votre école, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la façon dont on échappe à ceux qui veulent vous arrêter. Élevant la voix et devenant à son tour agressif, Robert Villard poursuivait. Vous venez de me dire que je n'étais qu'un homme infâme. Vous vous trompez. J'ai beaucoup changé, beaucoup réalisé depuis quelques mois. Et je suis de taille à vous prouver que je suis tout simplement un homme qui en vaut un autre, et qui est parfaitement décidé à défendre sa liberté et sa peau avec tous les moyens. Vous m'entendez? Tous les moyens dont vous m'avez appris vous-même à me servir. L'ancien bagnard écoutait son fils sans l'interrompre. Son visage était devenu tellement impénétrable qu'il eût été impossible à l'observateur le plus perspicace de découvrir ce qui se passait dans l'âme ténébreuse de cet infernal bandit. Robert continuait. Vous avez supprimé entre nous deux, et je reconnais que vous avez raison, toute espèce de lien familial. Vous m'avez défendu de vous appeler mon père, non pas seulement parce que cette appellation eût suffi à divulguer votre véritable identité, mais encore parce que vous exigiez que nous ne fussions que deux associés, sous la réserve que vous seriez ce qu'on appelle le chef de collaboration. J'ai accepté toutes vos conditions. Je n'ai jamais regimbé quand il s'est agi de suivre vos directives. Je vous ai même témoigné une déférence qui, sans avoir rien de filial, n'en était pas moins celle qu'un homme de mon âge doit avoir envers un homme du vôtre. Si parfois j'ai discuté vos ordres, c'était parce que vous me l'aviez permis. Mais lorsque vous m'avez convaincu que j'étais dans mon tort, ne me suis-je pas toujours expressément soumis à votre volonté? Je ne vous ai jamais trahi. Je n'ai pas même essayé de tricher. J'ai été pour vous un instrument aveugle mais sûr. Je vous mets au défi de prétendre le contraire. Jacques Villard, âge figé dans son attitude silencieuse, ne laissait toujours apercevoir aucun signe d'approbation ou de mécontentement. On eût dit qu'il était changé en statue. Willy, de plus en plus monté, martelait. Mais malgré ces preuves de fidélité que je vous ai données, voilà que vous m'accusez maintenant de la plus stupide, de la plus invraisemblable des machinations. Et vous avez mis 3 jours à trouver cela. Ah, oh, ça, mon révérend père, est-ce que vous commenceriez à décliner? Comment se fait-il qu'avant de m'accuser aussi témérairement, vous n'ayez pas songé à votre principal ennemi, c'est-à-dire à Douglas Wilson. »
Douglas Wilson ? Sursauta Alex Bagnard.
Parfaitement, Douglas Wilson, scandait son fils.
Jacques Villard reprenait.
Mais c'est impossible.
Qu'en savez-vous ?
Ben, tu oublies que nous avons signé un traité de paix basé sur le fait que je possède certains documents.
Mais vous me l'avez dit.
Et tu estimes que cette arme n'est pas suffisante pour le faire tenir tranquille.
Si, en principe, admettait Zermatt. Mais qui nous dit qu'il a renoncé définitivement à nous faire la guerre à tous les deux? Et qu'en faisant disparaître Gisèle, il n'a pas cherché à se procurer contre nous une arme équivalente à celle que vous possédez contre lui?
Au premier abord, admettait l'ex-roi des snobs, ton raisonnement tient debout.
Et d'un ton redevenu conciliant, Jacques Villard développa.
Mais il n'est pas besoin d'être un grand clerc pour s'apercevoir de sa fragilité. Tu vas en juger par toi-même. Ce matin, j'ai lu dans le journal de cet industriel qui ne se contente pas d'embaumer le monde entier de ses parfums, mais veut encore l'inonder de sa prose. Ah, le Figaro.
On peut rien te cacher. Je te disais donc que j'ai lu ce matin, dans ce journal, que Douglas Wilson était gravement malade à Venise.
Alors je vous objecterai que cela peut très bien être de sa part une fin destinée à endormir notre vigilance.
Cela est fort possible. Mais il est un autre argument contraire à ta thèse, et je suis surpris que tu n'y aies pas songé.
Voyons. Pour que Douglas Wilson ait réussi à enlever Gisèle, il faudrait qu'il ait eu des complicités à l'intérieur de la maison de santé.
Et pourquoi pas?
Tu vas pas accuser ces excellentes bonnes sœurs?
Elles, non.
Qui alors?
Mais le personnel.
Quel personnel?
Les jardiniers.
Peut-être, en effet, admettait le bandit.
Mais cela non plus ne tient pas debout du davantage.
Je ne le vois pas.
Laisse-moi continuer.
En supposant, ce qui n'est pas vraisemblable, que Douglas Wilson ait réussi à corrompre un employé quelconque de la maison de santé, et que celui-ci, chose très difficile, je dirais même impossible, ait réussi à s'approcher de Gisèle et à lui parler sans témoin,
tu oublies que ta femme aurait été incapable de le comprendre, et même de l'entendre, et que la religieuse n'aurait pas tardé à s'apercevoir du complot.
C'est fort juste, reconnaissait Willy. Et d'un ton dégagé, il ajouta, oui,
mais quand je me trompe, je ne demande qu'à reconnaître mon erreur.
Pourtant, permettez-moi de vous faire observer que si j'avais voulu enlever ma femme, je me serais heurté aux mêmes difficultés que Douglas Wilson.
Ben, je l'admets, déclarait le faux missionnaire.
Enfin, ponctuait le bel lâtre.
Et l'esprit raffermi par sa victoire, il reprit.
Pour moi, la seule version vraisemblable de cette fugue est que Gisèle, profitant de ce que cette sœur Agathe l'avait laissée seule, sera descendue dans le parc et qu'elle en a franchi la clôture.
Sans éveiller l'attention de personne?
Les démons ont parfois des ruses auxquelles les gens sensés ne songeraient jamais.
Bon, je te l'accorde, mais s'il était enfui de la maison de santé, elle n'aurait pas pu aller bien loin, elle aurait déjà été retrouvée.
À moins qu'il ne lui soit arrivé malheur.
Ben, la vérité, concluait le bandit, est que nous n'avons ni l'un ni l'autre aucune certitude.
Tu as beau me dire que je décline, j'ai encore assez de bon sens pour avoir ce droit d'affirmer que cette disparition demeure inexplicable. Et j'aime pas les énigmes, surtout quand je n'arrive pas à les déchiffrer.
Alors, que faire?
Si je le savais, s'écria Jacques Villard, j'aurais déjà agi.
Comme il prononçait ces paroles, on frappait à la porte. Entrez, fit Zermatt. Un valet de chambre apparut, annonçant « Monsieur le comte, ce sont les gendarmes. » « Les gendarmes ?» fit le beau Willy avec un léger sursaut. Le domestique expliquait « Oui, ils disent qu'ils ont quelque chose d'important à dire à monsieur le comte. Où sont-ils ? Dans l'antichambre. Faites-les entrer dans le petit salon, je descends dans une minute. » Lorsque le valet de chambre se fut éloigné, Robert Willard s'écria « Il nous apporte sans doute des renseignements au sujet de Gisèle. »« C'est probable, » acquiesça le faux missionnaire. « Vous venez avec moi ?»« Oui, et surtout, si les gendarmes t'interrogent, regarde-moi avant de leur répondre. »« Entendu, si j'approche ma main droite de mon menton, tu n'auras qu'à dire oui. » Et si je mets la main dans la poche de ma soutane, ce sera non. » L'ex-forçat, qui s'était entièrement ressaisi, ajouta « Faisons pas poser davantage ces excellents gendarmes. » Les deux associés s'en furent retrouver dans le petit salon ce qui les attendait, c'est-à-dire le brigadier Testu, grand et solide gaillard, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre, à la figure énergique d'anciens soldats sans peur et sans reproche, et le gendarme Pivolin, de taille moyenne, très sec, très nerveux, à la physionomie intelligente et même empreinte d'une certaine malice. Tandis que le faux missionnaire demeurait un peu à l'écart, le brigadier attaquait. « Excusez-moi, monsieur le comte, si je vous présente aussi tard à votre domicile, mais... la commission est urgente. Nous venons vous apporter des objets que l'on a retrouvés sur les bords du Loing, à 1 kilomètre environ de Moret. Montrez, invitait Willy. Le brigadier Testu, s'adressant à son inférieur, qui portait sous son bras un paquet peu volumineux, lui dit d'un air important et d'un ton solennel, « À vous l'honneur, Pivolin !» Pivolin déposa son paquet sur une table et avec dextérité, il en dénoua la ficelle. Puis, écartant le gros papier gris qui lui servait d'emballage, il laissa apparaître une paire de pantoufles bleues et une écharpe blanche en tulle. Avec la gravité d'un archevêque qui se préparait à haranguer une foule de fidèles, le brigadier Testu demandait « « Monsieur le comte Zermatt, reconnaissez-vous ces chaussures ? Et là, comment dirais-je bien, enfin, vous le voyez vous-même, ce truc, comme ayant appartenu à madame la comtesse ?» Willy jeta un coup d'œil à la dérobée vers son père, qui vivement avait porté la main à son menton. Se penchant au-dessus des pantoufles et de l'écharpe qui réellement avait appartenu à sa femme, il les examina un instant, puis il fit « En effet, oui, madame Zermatt les portait encore la dernière fois que je l'ai vue. »« Alors, continuait le brigadier Testu, il n'y a aucun doute, ni dans le fond, ni dans la forme. » Feignant un grand trouble, Willy reprenait « Vous dites, brigadier, que l'on a trouvé ces objets sur les bords de Loing ? À 1 kilomètre de la ville ?» Et vous en concluez ? Embarrassé, l'excellent brigadier déclarait « Je préfère que le gendarme Pivolin, qui est l'auteur responsable de cette trouvaille, exprime d'abord son opinion. Ensuite, je ferai connaître la mienne. » Et exagérant encore la solennité de son attitude et de son langage, le brigadier Testu accentua « Gendarme Pivolin, vous avez la parole. » Pivolin, avec une simplicité qui contrastait avec l'emphase de son supérieur hiérarchique, attaqua. Vers la fin de l'après-midi, je longeais à bicyclette la rive droite du Loing, lorsque mon attention fut attirée par ces pantoufles qui paraissaient faire une grosse tache bleue dans l'herbe, tout près de l'eau. Vite, je saute à bas de ma bécane, je m'agenouille sur la berge, et je m'empare des pantoufles. Mais voilà que j'aperçus à 20 mètres de là, accroché à un roseau,
cette écharpe que je ramenais également. Je fis aussitôt mon rapport au lieutenant de gendarmerie de Fontainebleau, rapport dans lequel je considérais que ces objets appartenaient à Madame la comtesse Zermatt, dont la disparition dans la maison de santé de Bouron était signalée depuis 3 jours. Le lieutenant donna l'ordre au brigadier Testu et à moi de nous rendre aussitôt près de vous. Voilà. Willy avait pris tour à tour les pantoufles toutes maculées de poussière et l'écharpe trouée de plusieurs accrocs. Hélas, fit-il en affectant une vive douleur, il n'y a plus à se forger de fausses espérances. Ma pauvre Gisèle s'est jetée à l'eau. C'est exactement ce que nous pensons tous, opinait le brigadier Testu. Seulement, nous n'osions pas le dire à monsieur le comte. La malheureuse, murmurait tristement le donjon des grands bars, qui à la vive satisfaction de l'ex-bagnard jouait merveilleusement son rôle. Et puis, au fond, éprouvait-il peut-être un sentiment de regret et de pitié à l'égard de cette pauvre jeune femme qui s'était si passionnément donnée à lui et qu'il avait parfois grisée de ses baisers et toujours comblée de ses caresses. Le brigadier reprenait. Dès demain matin, on commencera à faire des recherches dans la rivière. Mais ce ne sera pas commode à ramener le corps de Madame la comtesse à la surface. Dans le fond, en effet, il y a beaucoup de racines et puis des herbes en quantité. Willy reprenait. Oh, dès demain matin, je vais m'entendre avec la police de Moret afin que l'impossible soit fait pour que, le plus promptement possible, ma pauvre femme repose en terre sainte. Puis il reprit en s'adressant aux gendarmes. Je vous remercie. Il appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique et ordonna au valet de chambre qui apparaissait. Conduisez ces messieurs à l'office et faites-les se rafraîchir. Au revoir, mes amis. Au revoir, monsieur le comte, firent simultanément le brigadier Testu et le gendarme Pivolin. Et tandis qu'ils emboîtaient le pas aux domestiques, Testu dit à son inférieur avec un accent d'autorité condescendante. Gendarme Pivolin, je suis content de vous. Vous avez parlé comme un avocat. Demeuré seul, l'ex-bagnard et son fils se regardèrent. Puis, éclatant d'un rire satanique, le premier dit Oh, tu as raison, mon ami, je décline. Comment n'avais-je pas deviné du premier coup que Gisèle s'était suicidée? Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à toucher les 60 millions qui nous reviennent, en attendant ce que, sans douter, la danseuse Marquita va faire tomber dans notre escarcelle. Alors, interrogé Willy, vous n'avez pas renoncé à cette bohémienne? Mais moins que jamais, s'écriait l'ex-docteur Miracle. Et voici mes instructions. Je t'accorde 3 mois, mais pas plus, pour pleurer ta Gisèle. D'ici là, tu pourras même commencer discrètement, vers la nouvelle vedette du Moulin Rouge, certains travaux d'approche que je suis même décidé à te faciliter à condition que tu me rendes un compte exact de tes moindres faits et gestes. C'est entendu. Jacques Villard, qui une fois de plus venait d'étouffer l'esprit de révolte dont son fils s'était animé, de reconquérir sur lui son irrésistible ascendant, reprenait avec une autorité plus férocement impérieuse, mais amicalement bienveillante. Pendant ce temps, je vais fabriquer à Marquita un état civil particulièrement soigné, qui lui permettra d'entrer en possession d'un héritage qui, joint aux 75 millions que nous allons pouvoir toucher, constitueront le puissant trésor de guerre dont nous aurons besoin pour arriver à mes fins. C'est-à-dire, précisait le faux Zermatt en ricanant à son tour, c'est-à-dire pour récompenser et reconquérir le trône de mes aïeux. Oui, mon fils, déclarait l'ancien bagnard. Willy eut un léger sursaut, c'était la première fois que son père l'appelait ainsi. Il lui semblait même qu'en prononçant ce mot « mon fils »,
Un rapide éclair avait illuminé son regard. Le faux missionnaire reprenait en appuyant sa main sur l'épaule de Willy. « Maintenant, j'en suis sûr, dans un an, tu seras roi !» Et il ajouta, comme s'il se parlait à lui-même, « Quelle belle revanche ce sera pour moi, contre cette société qui a fait de moi ce que je suis. Car si je suis devenu tour à tour faussaire, voleur et assassin, à qui la faute? À ce Paris qui m'a perverti, pourri, gangrené? À ces jurés qui, au lieu de m'envoyer en prison pour 5 ans, ce qui était juste et que j'eusse accepté, sans me plaindre, ont voulu voir en moi l'assassin de ta mère, ce qui est faux, ainsi que je te l'ai dit, et que je le répète encore, et je lui crié la tête sous le couperet. Oh, je leur prouverai à tous combien je les hais, combien je les abomine. Un bagnard faiseur de roi, c'est déjà pas ordinaire. Et c'est rien, tu m'entends, à côté de ce que je ménage, c'est un mal ordure qui s'appelle le genre humain. Une fois que je t'aurai conquis le trône, sois sûr, cette fois que je te laisserai bien tranquille, mais à une condition, c'est que tu me laisses tout faire. Ce pays d'Hespérie n'est rien, ou presque rien encore. Sous mon impulsion, j'entends qu'il devienne une grande puissance. Je veux être et je serai mieux que le Mussolini. Je te donne rendez-vous dans 2 ans. Et alors tu assisteras à des événements historiques que je provoquerai et qui auront pour résultat de bouleverser une fois de plus le centre de l'Europe. Ah ça, se demandait Willy, mais est-ce que mon père ne serait pas atteint de la folie des grandeurs? Tout en dissimulant son inquiétude, il chercha les yeux de son père. Jamais encore il ne leur avait trouvé une telle expression. Satan devait avoir ce regard-là quand il entama la lutte contre Dieu. Et comme hypnotisé par la puissance d'un rayonnement qui semblait avoir son origine dans l'enfer, il se dit « Bon, il n'y a qu'à s'obéir, car décidément, je ne suis rien à côté de lui. » Et, tout en se remémorant les chemins tortueux que son père avait pris et lui avait fait prendre, comprenant maintenant la nécessité de certains actes, de certains faits, et dont l'utilité lui avait jusqu'alors échappé, empoigné par la griserie criminelle que celui-ci lui avait communiquée, il constatait que son père, soit qu'il fût le baron Mirador, le docteur Miracle, le père Ardennais, il avait toujours réalisé ses intentions, échappé à la police, désarmé, vaincu ses adversaires, et il en conclut « Ben, il n'y a pas de raison pour que cet homme ne soit pas un jour plus fort que le monde. » Quant à Jacques Villard, qui avait deviné toutes les pensées de son fils, il s'écriait « Bon, maintenant le plus dur est fait. Encore un an de lutte, de patience, et le but sera atteint. » Et il ajouta, plein d'entrain, de bonne humeur, avec cet effroyable cynisme dont il avait déjà tant de fois donné la preuve, « Allons-nous coucher. Cette nuit, je vais dormir tranquille. » Chapitre 10 Le grand chagrin de Marquita. 3 mois s'étaient écoulés sans que rien de sensationnel, du moins à la surface, n'eût fait rebondir les événements que nous venons de vous raconter. Malgré toutes les recherches faites par les policiers et par de simples particuliers auxquels le comte Zermatt avait promis une très forte prime, s'il retrouvait le corps de sa jeune femme, la rivière du Loing n'avait plus rendu sa proie. Un fait, cependant, avait confirmé la version du suicide. Un jour, un pêcheur à la ligne avait ramené, accroché à son hameçon, un bout d'étoffe que Willy avait reconnu comme appartement à la robe que Gisèle portait le jour de sa disparition. Conformément aux ordres de son père, il avait affecté un grand chagrin
et s'était littéralement cloîtré dans sa propriété, où d'ailleurs il s'ennuyait à mourir. De temps en temps, il venait à Paris. À plusieurs reprises, il s'était rendu au Moulin Rouge, soigneusement camouflé, et il avait pu se rendre compte que cette Marquita, dont le succès grandissait de jour, ferait non seulement une compagne mieux qu'acceptable, mais encore une reine d'Ibérie, très racée et très originale. Quant à Jacques Villard, il avait disparu, rangeant sans doute au magasin des accessoires le costume de père de la Miséricorde dont il avait su faire un si habile usage. Quel nouveau personnage incarnait-il? Willy eût été, lui aussi, bien en peine de le dire. Son père, en effet, ne correspondait avec lui que par lettres rédigées en une écriture conventionnelle, et dont, par un procédé chimique dont l'ex-bagnard avait le secret, tous les mots s'effaçaient entièrement 5 minutes après qu'ils avaient vu le jour. Dans son dernier billet, le bandit déclarait notamment à son destinataire: « Je comprends que tu te maries, mon fonde, puisque tu as le grand tort de ne pas aimer la lecture. Si j'étais immobile comme toi, je dévorerais toute ma bibliothèque et le temps me paraîtrait beaucoup moins long. Alors, encore un peu de patience. Le délai que je t'ai fixé va bientôt être atteint. Il était indispensable, car moins que quiconque, tu dois choquer l'opinion publique en raison du grand coup que je prépare. Il est même indispensable que ta liaison avec Marquita demeure pendant quelques temps très mystérieuse. Il ne faut pas que l'on puisse dire que tu as digéré trop facilement les millions de Galabert. Il sera même nécessaire que pendant un temps, que je ne saurais encore te fixer, car tout dépendra des circonstances, tu manifestes discrètement mais assez nettement tout de même, afin de donner le change à tous, combien la fin tragique de ta Gisèle te cause de regret. Maintenant que tu es au courant de tous mes projets, je suis certain que tu te montreras patient et que tu ne mettras pas de bâton dans les roues du char triomphal où je veux te faire monter. À bientôt donc, car nous n'avons pas tardé à entrer dans une profonde activité qui ne manquera pas de te procurer un vif agrément. Comme je suis très content de toi, depuis notre dernière entrevue, tu recevras demain une très belle scie cylindre que je t'offre avec plaisir. Ton deuil ne t'empêche pas de faire des randonnées. Seulement, préviens-moi toujours par un télégramme expédié à l'adresse habituelle l'endroit où tu te trouves. Surtout, sois prudent, pas plus de 87 à 90 à l'heure, car ce n'est pas le moment d'avoir un accident et de détériorer ton prestigieux visage. Bonnes amitiés. » Ces derniers mots, « bonnes amitiés », plongèrent le comte Zermatt dans une satisfaction qui n'avait d'égal que sa surprise. C'était en effet la première fois, depuis qu'il avait retrouvé son père, que celui-ci ajoutait au missif qui lui envoyait une brève formule d'affection. Le premier mouvement de Willy fut de se demander « Mais qu'est-ce que cela s'y cache ?» Puis il se dit « Après tout, a-t-il pour moi plus d'attachement qu'il n'a voulu me le montrer ? Et n'a-t-il affecté à mon égard cette indifférence sentimentale et cette sévérité tyrannique afin de mieux me courber sous le joug ? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, je dois m'incliner devant lui et reconnaître qu'il n'aimait l'as des as. » Et je commence à croire qu'il va exécuter jusqu'au bout ce plan qui m'avait paru jusqu'alors insensé. Faire de moi un roi. Au premier abord, cela semble fou, inimaginable, mais maintenant que j'ai vu ce qu'il a fait et que je sais ce qu'il est encore capable de faire, j'ai l'impression que le chapeau qui m'entoure le front se change en couronne et que la canne que je tiens dans la main se change en un sceptre rutilant de pierreries. Enfin, nous verrons bien. Pour l'instant, il n'y a qu'à se laisser vivre et attendre que le paternel m'autorise à faire ma cour à la bohémienne blonde. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et maintenant, revenons à Marquita, autour de laquelle s'agitait, sans qu'elle s'en doutât, cette ténébreuse et redoutable intrigue. La pauvre petite, malgré l'accueil enthousiaste que lui faisait chaque jour le public et les 200 francs par représentation que son dicteur-acteur lui avait alloué, n'était pas heureuse. Bien qu'elle eût cherché à s'en défendre de toutes ses forces, l'amour que lui avait inspiré Guervray avait grandi, en effet, à un tel point qu'il l'accaparait tout entière. Et cela avait été pour elle une indicible souffrance, en constatant que, de plus en plus épris de sa femme, le jeune artiste, tout en continuant à la protéger et à s'occuper d'elle, ne la considérait que comme une camarade. Avec un fier courage, elle avait su dissimuler le chagrin que cela lui causait. Et lorsqu'un soir, innocemment, Jacques avait amené avec lui dans la loge de la danseuse Marie-Thérèse, qui, complètement rassurée, avait manifesté à son mari son vif désir de connaître personnellement celle qui, faussement, elle avait cru sa rivale, Marquita, pour masquer la douleur qui la torturait, dut faire sur elle-même un tel effort que, lorsque le jeune ménage fut parti, elle tomba sur le parquet, évanouie. Nono Manette, dont la loge voisinait avec celle de la bohémienne, blonde, entendit le bruit de sa chute, et elle se précipita aussitôt au secours de la malheureuse. Nono Manette n'était pas une mauvaise fille. Très orgueilleuse, elle tenait par-dessus tout à son titre de première grande vedette musical de Paris. Fort intéressée, elle n'eut pas la pensée que les énormes cachets que lui donnait son directeur pourraient être diminués, ne fût-ce que d'un centime. Aussi, très ennuyée du succès de Marquita, et redoutant que celle-ci ne la supplantât aussi bien dans l'estime de son manager que dans l'esprit du public, lui avait-elle fait fort grise mine. Elle n'avait même pas été étrangère à l'article venimeux que le Martinet avait inséré au sujet des prétendus amours de la bien-aimée blonde et de Jacques Guervay. Mais s'apercevant bientôt que les spectateurs lui continuaient leur bravo enthousiaste, que Corbeil lui avait proposé de renouveler son engagement à des conditions encore supérieures à celles de l'année précédente, elle s'était vite calmée. Et, son intelligence reprenant le dessus sur ses nerfs, elle avait compris que le talent de Marquita était tellement différent du sien qu'il ne pouvait pas lui faire ombrage. Et répondant au gracieux sourire que lui adressait la jolie danseuse, elle lui tendit franchement la main et lui demanda de devenir son amie. « Pourquoi pas ?» répliqua Marquita. « Moi, je ne demande pas mieux. » J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je trouve que vous êtes une très grande artiste, et la preuve, ma chère madame, c'est que chaque jour, après mon tour de danse, je reste sur le plateau afin de vous voir dans votre finale. Tant que je vous trouve splendide, inimitable, inégalable. Cet éloge a achevé de conquérir d'autant mieux nos manettes qu'elle les sentait très sincères. Et à partir de ce jour, les vedettes ennemies devinrent d'excellentes camarades. Nono Manette s'occupa même de trouver rue de Navarin un petit appartement avec atelier pour Marquita. Elle lui prêta l'argent nécessaire pour se meubler et s'installer simplement, mais gentiment. Elle fit mieux encore. Un soir, en entendant la jeune bohémienne fredonner une mélodie nostalgique et lointaine, elle lui dit « Mais tu as une très belle voix. Tu devrais travailler. Est-ce que tu sais d'autres chansons ?» Marquita répondit « Mais des bribes comme ça que j'ai à l'entendu hasard des pays que je traversais. Chante-moi encore quelque chose. »
Marquita s'exécuta.
C'était étrange, mais captivant. Rien ne se suivait, ni la mélodie, ni le rythme, ni les paroles. Et pourtant, tout cela s'enchaînait à merveille, en un ménage inattendu, mais profondément pratique et poétique, qui exprimait tour à tour et sans transition les sentiments humains, simples et populaires, qui semblait s'être donné rendez-vous dans l'âme de la bohémienne. « Mais c'était pas tant, ma chérie !» s'extasiait Don Nanette. « Seulement, il faut mettre de l'ordre et de la clarté dans tout cela. Tu peux chanter tour à tour comme un ange et comme une déesse, mais il faut que tu apprennes à bien ménager, à bien poser les effets. Demain, je te conduirai chez un de mes amis, celui qui a fait la musique de mes dernières chansons. C'est un excellent musicien. Oh, je t'assure qu'il a autrement de talent que tous ces chichiteurs que l'on joue maintenant à l'opéra comique et qui savent faire le vide mieux que des pompiers un jour d'incendie. Seulement, c'est un sincère, un modeste. Il n'est pas de la coterie de M. Villermoz. Ah, tu ne connais pas M. Villermoz? C'est un type qui n'aime que la musique cubiste, qui gobe toutes les zaderies des films américains. Arrange-toi pour y comprendre quelque chose. Moi, il y a longtemps que j'ai renoncé. Et puis, je m'en fiche. Car les snobs ont beau m'avoir accepté, je ne les gobe pas. Ce sont la plupart du temps des idiots et des mufles, comme le disait notre grand Aristide Briand. Ah, tu l'as pas connu, Aristide Briand, celui-là, ah, mon petit. Fallait voir, paraît-il, comme il les engueulait, ces petits messieurs, quand il venait à son cabaret du boulevard de Rochechouart. Et il trouvait ça épatant. Ces types-là, ça aime être traité comme des filles. Je te raconterai long là-dessus, un jour où nous aurons le temps. Mais qu'est-ce que je te disais déjà? Que vous m'emmèneriez chez un musicien. Ah oui, j'y suis, cher Jean Bourbier. Ah, celui-là, il ne cherche pas midi à 14h. Il sait trouver la phrase qui tour à tour rit et pleure, et avec laquelle on secoue une salle. Et puis il connaît son public, et il l'empoigne que par de moyens honnêtes, sincères. Et puis ça chante tout seul, parce que c'est admirablement écrit pour la voix. Pas de danger qu'on ramasse la bûche avec lui. Tu n'auras qu'à bien l'écouter, et avec les machins que tu viens de me roucouler, il te fera un répertoire épatant. Comme ça, tu auras deux cordes à ton arc. Ta danse et ton chant. Et ce n'est plus un cachet de 200 balles que l'on te donnera, mais 500 et même peut-être davantage, en attendant que tu attrapes les quatre chiffres, ce qui ne serait pas beaucoup tardé. Touché de l'intérêt que lui portait Donnino Manette, Marquita lui sauta au cou et l'embrassa avec effusion. Le lendemain, la Parisienne présentait à la bohémienne à Beaumonier, qui s'emballa aussitôt. Le musicien et l'artiste virent à travailler avec une ardeur commune. Bientôt, ainsi que l'avait pronostiqué Don Manette, Beaumonier, tout en s'inspirant des phrases que lui avait chantées Marquita, qu'il avait soigneusement notées, composa pour elle une série de chansons à laquelle Didier Gaulle, l'exquis poète, composa des paroles d'une poésie très savoureuse et pittoresque. Et lorsque Don Manette eut entendu Marquita lui détailler avec cet art inné dont elle était douée et ce charme personnel qu'elle répandait autour d'elle comme un parfum délicieusement original, la grande vedette du Moulin Rouge s'écria, les yeux pleins de larmes, « Ça y est, ma gosse, puisque tu m'as fait pleurer !» Il fut convenu que dès le lendemain, on ferait entendre Marquita, Corbert et aux auteurs de la nouvelle revue que l'on allait mettre quelques jours après en répétition. Le manager et ses collaborateurs se déclaraient enthousiasmés et il fut entendu que l'on ferait pour la bohémienne blonde une scène chantée, dansée, qui remplacerait un de ces sketchs généralement assez malvenus et dont le public commençait à se lasser. Et voilà comment, destinés à devenir deux rivales irréconciliables, Nono Manette et Marquita étaient devenus les meilleurs amis du monde. Pour l'instant, Nono Nanette, à laquelle était venue se joindre une vieille habilleuse, la mère tarte aux fraises, ainsi surnommée parce qu'elle était affligée d'un visage qui évoquait forcément la couleur de ses fruits délicieux, s'efforçait de ranimer la danseuse. Le régisseur de noir, qui passait pour faire presser les artistes qui s'attardaient à bavarder, car c'était la fin du spectacle, voyant ouverte la porte de la loge de Marquita, y entra et aida les deux femmes à transporter la danseuse sur une chaise longue en osier. Puis il proposa « Faut-il que j'aille voir si le médecin de service est encore là ?»« Non, c'est inutile, » refusait Nono Manette. « D'abord, il serait déjà parti. Et puis, la pauvre gosse !» Elle se tut. Marquita rouvrait les yeux. « Laissez-moi seul avec elle !» ordonnait la grande vedette au régisseur et à l'habilleuse. Denoir s'empressa de déguerpir, car il était payé pour savoir que Nono Manette n'aimait pas à répéter deux fois la même chose. Quant à la mère tarte aux fraises, elle fit d'une voix qu'on eût dite faite pour sucrer sa figure. « Je veux rester dans le couloir. Nono Manette a besoin de moi. Je serai trop heureuse. »« Oui, oui, c'est cela. Allez-vous-en et restez. » La mère tarte aux fraises s'éclipsa sans insister. Elle aussi avait peur de la foudre. Peu à peu, Marquita revenait à elle. Et reconnaissant son amie qui se penchait sur elle, en un geste spontané, elle lui prit les mains et éclata en sanglots. « Qu'est-ce que tu as, ma gosse ?» interrogeait l'étoile du Moulin Rouge. « Un gros chagrin ? Raconte-le à ta nono. « Je crois que maintenant tu peux être sûr que je suis vraiment ton ami et que tu peux avoir confiance en moi. »« Oh oui, madame, oh oui. »« Mais je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler madame, mais nono. »« Je crois qu'on est devenu assez copines pour envoyer faire fiche le protocole. »« Allons, parle, vide ton cœur. »« Tu ne veux pas ? » ?»« Eh bien, moi, je vais te le dire, tu es amoureuse. »« Pas vrai ? » ?»« Regarde-moi en face. » Et puis je vais encore bien plus t'épater en te disant de qui. Oh non, vous ne pouvez pas deviner. Ah, tu crois? Et si je te disais que tu es folle de Jacques Gervais, qu'est-ce que tu me répondrais? Ah, je crois que je t'embouche un coin. Et maintenant, dis-moi donc que ce n'est pas vrai. Si, madame. Et là, oh pardon, si, nono. À la bonne heure. « C'est vrai, » et elle ajouta, bouleversée d'émoi, « ça se voit donc ?»« Non, ici personne ne s'en doute. Jusqu'à présent, tu es joliment bien caché, ton jeu. Il n'y a pas seulement 8 jours que moi je m'en suis aperçu. »« Et sais-tu comment ?»« Non, dites-moi. »« Chez Beaunier, rien qu'au regard que de balancer au portrait de Gervais qui était sur le piano. » « Tu sais, je suis une fine bouche, moi. Je peux sortir sans ma bonne. Alors je te plains de tout mon cœur. Je souhaitais que ce ne soit qu'un béguin. Mais sans beaucoup y croire, car toi, tu n'es pas de celles qui se donnent et qui se reprennent, et bien que tout le monde t'appelle la Vierge du Moulin Rouge, oh, pas pour se moquer de toi, mais parce que c'est la vérité. » Tu es une amoureuse, une vraie, une fidèle. Tu es la femme d'un seul homme. En dehors de lui, rien n'existe et ne saurait exister, pas vrai? Aussi, pauvre gosse, Tout à l'heure, j'ai croisé sur le plateau Gervais qui m'a dit « Je vais aller avec ma femme dire bonsoir à Marquita. » J'ai été sur le point de lui crier « N'y allez pas, mes enfants, ça va faire du vilain. » Mais je me suis dit aussitôt « Gaffe !» Et je l'ai fermé, tu penses. Seulement, je me suis bien douté de ce qui allait se passer. Que tu ferais bonne contenance devant lui et elle, mais qu'après serait parti, tu te casserais en deux, comme une fleur à laquelle on vient de donner un coup de bâton. Il faut pas en vouloir à Jacques. Il est tellement chippé pour Marie-Thérèse qu'il ne peut pas se figurer un seul instant qu'une autre pense à lui. Mais c'est horrible. Oui, j'en conviens, mais qu'est-ce que tu veux? Il est envoûté. Madame Gervais est si jolie, elle semble tant l'aimer. Oh oui, pour ça, ça marche bien. À un moment, j'ai cru qu'elle allait le plaquer, tandis que lui turbinait à s'en faire crever pour lui assurer le luxe qu'elle exigeait. Je ne pourrais pas. Elle allait même jusqu'à s'afficher dans des boîtes de nuit avec des rastas et des gigolos. Oui, c'est bien ce qu'on m'avait dit, souligna la bohémienne. Et puis tout à coup, ça s'est replâtré. On n'a jamais su pourquoi ni comment. Maintenant, elle ne le quitte plus. C'est de croire qu'elle est vraiment chipie. Et puis, ils vont avoir un enfant. Un enfant ? S'étonnait douloureusement la danseuse. Ça se voit pas très bien, parce qu'elle s'arrange pour ça, mais n'empêche que ça y est. Voilà pourquoi, ma petite chérie, il ne faut pas te laisser aller. Il faut te ressaisir, avoir du cran. C'est bien que ce n'est pas commode, surtout que tu as rêvé que ton premier amour soit le seul de ta vie. Ça va être très, très dur, mais il s'agit de se rebiffer, d'oublier. Je ne pourrais pas. On dit cela et on y arrive. Moi, je ne crois pas. J'en suis sûr, vraiment, et je vais t'en donner tout de suite la preuve. Moi aussi j'ai aimé, peut-être pas de la même façon que toi, parce que deux cœurs ne sont pas faits de la même manière. Et sais-tu qui j'ai aimé? Oh, je te raconte pas de blagues. Si tu me crois pas, tu n'auras qu'à demander aux camarades. Oh non, c'est inutile, je sais bien que vous dites la vérité. « Eh bien, déclara la grande vedette, dont la voix tremblait d'une émotion qu'elle cherchait à contenir, eh bien, j'ai aimé Jacques Gervais. »«
Vous ?»«
Oui, moi. Et quand j'ai su qu'il épousait une jeune fille du monde, je te jure que j'étais très malheureuse. Il me devait sa situation. C'est moi qui l'avais sorti de l'obscurité et l'avais présenté à Corbert. » « Alors il a très mal agi envers vous ?» s'écriait Marquita. « Mais non, ma petite, je n'ai pas voulu dire ça. Je ne l'ai même jamais pensé. Il s'est débrouillé, il a fait sa vie, comme il devait la faire. Il ne pouvait pas se marier avec moi, parce que vois-tu, ce n'est pas moi que l'on pourrait appeler la Vierge du Moulin Rouge, et puis ça n'aurait pas marché. » J'ai beaucoup souffert de le voir à une autre, puisque personne ne l'a soupçonné. Parce que vois-tu, nous autres, femmes de théâtre, nous devons rester toujours nous-mêmes, et nous ne devons n'avoir qu'un amant, le public, car c'est encore lui le plus sincère, le plus fidèle. Ça m'a réussi. Aujourd'hui, ça ne me fait plus de mal. Même quand je le vois avec sa femme. Nous sommes restés de bons camarades, c'est tout. C'est même tout. Et quand nous nous serrons la main, c'est sans arrière-pensée. J'ai perdu son amour, mais j'ai gardé son amitié. Et l'amitié, vois-tu, ma poupée, c'est encore ce qu'il y a de plus beau au monde. Réconforté par l'affection clairvoyante que lui témoignait sa célèbre camarade, Marquita reprenait.
Vous avez raison, Nono, mais moi, je ne sais pas si je serai aussi forte que vous. Je l'adore tant. Mais du courage. Je veux en avoir, mais en aurais-je assez pour vivre à jamais seule, toute seule? Alors, qu'est-ce que tu feras? Avec un calme impressionnant, la bohémienne répliquait. Je me tuerai. Toi? S'écriait Nono Manette en l'attitrant dans ses bras. Oh, si tu n'étais pas ma gosse, ma franginette, qu'est-ce que je t'enverrais comme paquet de savon? Te tuer, toi? Quand à 19 ans, on gagne 200 francs par représentation au Moulin Rouge, qu'on est connu, qu'on a devant soi la perspective d'engagement mirobolatoire. Non, mais alors, ça me ferait croire que tu as reçu le coup de bambou. Te tuer! Ah, mais tu vas me forcer à te raconter une chose que j'avais promis de garder pour moi. Mais tant pis, je vais te la romance. Ma petite Marquita, je ne te parle pas de tous les idiots qui t'envoient des corbeilles de fleurs en y joignant leurs protestations en amouré. Et qui se figurent que pour quelques billets de 1 000 francs ou simplement pour leur beau physique, ils vont obtenir tes faveurs sans discussion. Tu es au-dessus de cela. Et ce n'est pas le genre d'homme qui te convient. Pas plus d'ailleurs qu'un de ces types-là aux as et qui entretiennent royalement leur maîtresse, non pas parce qu'ils y tiennent, mais uniquement pour épater la galerie. Non, ma gosse, ce qu'il te faut à toi, c'est un homme qui t'aime vraiment, un honnête et digne garçon, artiste comme toi. Pas un cabot, un vrai artiste, c'est ce que je veux dire. Et qui t'aimera autant, et peut-être plus encore, parce que tu es une femme toute de talent, de droiture et d'honnêteté, que parce que tu es à la fois belle et jolie. Celui-là ne te couvrira pas de diamants ni de pelouses, mais il sera avant tout le compagnon de ta vie, l'ami des bons et des mauvais jours, et tu seras très heureuse. Marquita reprenait. Que vous êtes bonne de me parler ainsi. Je vais essayer de vivre et même d'oublier, puisque vous me le demandez. Ça, c'est gentil, mais si je ne peux pas, mais tu pourras. Je vous jure que j'y mettrai toute la bonne volonté dont je suis capable, mais j'ai bien peur. De quoi as-tu peur? Mais de ne pas rencontrer celui que vous appelez si bien le compagnon de nos existences. Ah! « Si je n'avais pas juré !» s'exclamait Mono Manette. « Que voulez-vous dire ?» interrogeait la bohémienne blonde. « Allons, bon !» s'écriait la grande vedette du Moulin Rouge. « Voilà que maintenant j'ai eu la langue trop longue. »« Aussi parler !» suppliait la danseuse. « Malgré toutes les consolations que vous me prodiguez, j'ai encore tant besoin d'être réconfortée. »« C'est un secret !» expliquait Mono Manette. Et crois bien que si ça n'intéresse qu'à moi, je te le révélerai tout de suite. Mais j'ai encore une parole et je ne peux rien dire. Car si j'ai de grands défauts, je sais te dire un engagement, surtout quand c'est envers un copain que je l'ai pris. Remarquant l'expression de tristesse qui se lisait sur le visage de sa camarade, Nono Nanette reprenait. Mais je puis tout de même te dire une chose, c'est que tu es vraiment aimé. Moi? Oui, ma gosse, et par un garçon digne de toi, et qui, ma foi, vaut bien tous les Jacques Gervais de la terre. Il a même sur lui un avantage, c'est qu'il n'est pas marié, qu'il est libre, entièrement libre. Seulement, il n'ose pas te faire la cour. C'est un timide, et puis... Tu es encore tellement entiché de ton Jacques que j'ai été la première à lui conseiller de ne rien dire et de ne même pas te laisser soupçonner le sentiment qu'il a pour toi. Ne compte pas que ce soir je t'en dise plus long, mais réfléchis bien. Et lorsque tu te seras rendu compte qu'avec Jacques Gervais, tu poursuis un rêve irréalisable, ne fais ni une ni deux, viens me trouver et dis-moi. Je me suis libéré de la tyrannie d'un amour impossible. Je te dirai alors le nom de celui qui t'adore, mais ne t'en fais pas, il t'attendra. Allez, maintenant, prends ton manteau, viens ici que je te donne un coup de main. Et puis je vais te reconduire en automobile jusqu'à chez toi. Quand tu auras la tienne, et tu l'auras dès que tu auras fait une tournée en Amérique, ce sera ton tour de trimballer. Et comme Marquita était prête à partir, elle s'écria « Embrasse-moi, ma gosse, et surtout, du cran, tu me l'as promis. »« J'en aurai, » fit Marquita, en étreignant contre elle la brave fille qui venait de lui parler comme une sœur.